Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous ce matin. Et comme je le disais, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas directement lié à Israël, bien que vous savez, si on veut être honnête, quand on regarde la Bible, pratiquement tout est lié à Israël, parce que il y a pratiquement pas une page de la Bible sur laquelle le mot Israël ou le mot juif n'apparaît pas. Donc, si quelqu'un veut être malhonnête, il pourrait dire, je vois pas très bien l'importance d'Israël dans la Bible, mais si on veut être honnête, alors là, justement, on verra que, en effet, Israël a une grande place dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, si bien dans le passé que dans le présent et dans le futur. Mais en tout cas, ce matin, le thème, c'est l'unité. Alors, l'unité, c'est un mot qui fait parfois un petit peu peur. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on entend ce mot « unité », on pense directement à l'écuménisme et à ce dialogue entre différentes dénominations chrétiennes. Et avec certaines dénominations, ça va, ça passe assez bien, mais par contre, avec d'autres, on a quand même des gros problèmes, parce que d'un point de vue doctrinal, il est évident qu'on ne peut pas être d'accord avec des gens qui adorent des statues et qui font des choses qui sont pour nous tout à fait contraires à la parole de Dieu. Donc, c'est sûr que l'unité, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à concevoir. Par contre, j'aimerais commencer en disant l'unité dans le corps du Christ doit se faire dans la diversité et non pas dans l'uniformité. Et ça, je crois que c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à accepter le fait que nous sommes différents, que chacun d'entre nous a sa personnalité, a ses talents, a ses capacités que chacun a reçues. Et on doit accepter que les talents que vous avez reçus ne sont pas forcément les talents que moi j'ai reçus, et vice-versa. Et puis, donc, il y a aussi l'unité dans la complémentarité. J'entendais quelqu'un qui disait, vous savez, ma femme et moi, on est unis dans la complémentarité, c'est-à-dire que nous nous complétons. Et c'est vrai que parfois, un petit peu en blaguant, on dit à propos de sa femme ou de son mari, « Ma moitié n'est pas là ». Donc, ce qui veut dire que quand ma moitié n'est pas là, je ne suis pas complet. Il me manque justement la moitié. Alors, bien sûr, un passage qui nous vient en tête, tout d'abord, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12. Et on va lire une grosse partie de ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 12, et à partir du verset 12. « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Je m'arrête ici un instant sur cette déclaration de Paul qui pour moi est primordiale. Comme il l'a voulu. Vous savez, parfois, dans le corps de Christ, on voit des gens qui sont à des postes ou qui ont des responsabilités, qui ont des activités, et on se dit, si j'avais pu choisir, je n'aurais pas mis ce personnage à cette place. Hein, ça vous est déjà arrivé peut-être de penser comme ça. Eh bien, ici, l'apôtre Paul nous dit que Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Et ça, c'est important de réaliser que c'est pas parce que nous avons une façon de voir les choses que ça veut dire que notre façon est toujours la meilleure. Dieu connaît toutes choses. Il sait pourquoi il a mis telle personne responsable de l'école du dimanche et telle autre responsable de la musique ou que sais-je. Dieu sait pourquoi. Et nous devons apprendre à respecter les organes du corps comme Dieu les a placés. Ensuite, on continue, verset 19. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Verset 20. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Et là aussi, j'aimerais m'arrêter une seconde en répétant ce verset 22. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Vous savez, parfois, dans une église, on voit des gens qui sont faibles, qui ont du mal à suivre, qui sont toujours à la traîne, qui font beaucoup de bêtises, qui tombent constamment. Ils sont faibles. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit ici, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Certainement, Dieu a placé aussi parmi nous des gens qui sont plus faibles pour que justement nous puissions apprendre d'abord à les supporter et aussi à les soutenir, à les encourager, à marcher avec eux. Si nous pensons être plus forts, comme dit l'apôtre Paul ailleurs, soyons prêts alors à soutenir celui qui est plus faible dans la foi, et non pas le critiquer, le condamner, le rejeter, mais soyons prêts à soutenir cette personne. Je pense qu'il y a énormément d'enseignements qu'on peut tirer de ce passage. On continue au verset 24. « Tandis que ceux, donc les organes, qui sont des sangs n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. » Prendre également soin les uns des autres. Ça, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut être honnête, prendre soin les uns des autres. C'est pas quelque chose qui est vraiment prioritaire dans notre société. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on vit dans une société où on est de plus en plus égoïste. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait à Timothée, sache que dans les derniers temps, les derniers jours, les hommes seront tout d'abord quoi? Égoïstes. Et on le voit que malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Et la société de consommation nous encourage presque à devenir de plus en plus égoïstes. Moi d'abord, moi ensuite et encore moi après. Hein, c'est souvent ça le message qu'on reçoit. Donc, il dit qu'il faudrait qu'on prenne soin les uns des autres. Verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et là aussi, si un membre souffre, tout d'abord, on n'en est pas toujours conscient. On ne peut pas deviner que le frère ou la sœur dans l'église ont un problème, peut-être même un problème sérieux, qui sont vraiment dans la souffrance. Mais si on ne communique pas les uns avec les autres, bien sûr, on ne le saura pas. Deuxième chose, c'est que quand un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est bien en théorie, mais en pratique, est-ce que c'est vraiment le cas? Si un membre est honoré, est-ce que plutôt, il n'y en a pas certains qui vont dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu l'as honoré lui et pas moi? Hein? Pourtant, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? C'est pas comme si je restais assis à ne rien faire. Hein, réalise tout ce que je fais pour toi, pour ton église, pour ton ministère, ceci, cela. Hein, comme si Dieu avait besoin de nous. Moi, je sais que je suis tout à fait inutile, comme dit l'apôtre Paul. Mais on peut avoir cette jalousie quand on voit quelqu'un qui est honoré, qui reçoit une bonne place de travail, ou qui est honoré dans l'église, qui reçoit un poste. Est-ce qu'on est vraiment en train de nous réjouir pour cette personne, ou bien est-ce qu'on a plutôt tendance à se dire, je sais pas s'il méritait vraiment cette place, et c'était moi qui aurais dû l'avoir. Il faut qu'on s'analyse soi-même. Verset 27, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Les différents membres de notre corps ont des fonctions complètement différentes. Ça, je pense que tout le monde s'en est bien rendu compte. Le rein ne fait pas ce que fait le cœur, et le cœur ne fait pas ce que font les poumons, bien entendu. Pourtant, chaque membre est utile et même nécessaire. Avez-vous jamais réalisé que ceux d'entre le corps de Christ qui sont complètement différents de vous et ont une fonction complètement différente de la vôtre font pourtant partie du même corps et sont utiles et même nécessaires? Les gens qui viennent nettoyer l'église, préparer la Sainte Cène, etc. On ne les voit pas, on ne les entend pas. Souvent, ils ne sont pas mentionnés, mais pourtant, ces gens-là sont nécessaires. Imaginez-vous s'il n'y avait personne qui préparait la Sainte Cène. On n'aurait pas de Sainte Cène, c'est tout simple. On ne pense pas à ces choses. Mais chacun est utile et même nécessaire dans le corps du Christ. Veuillez noter aussi que les membres de notre corps ne communiquent pas toujours entre eux. Par exemple, mon œil droit ne parle pas avec mon oreille gauche. Je ne les entends pas dire « Bonjour l'oreille, comment vas-tu ce matin? T'as bien dormi ?» Je ne les entends pas communiquer ou se chamailler en disant « Pourquoi tu n'as pas ouvert ton œil? J'aurais pu entendre ce qui se passait à ce moment-là. » Non, on n'entend pas ce genre de dialogue ou de discussion. Donc, il n'y a pas toujours forcément de communication entre les membres du corps, mais on sait qu'ils sont tout de même là et ils sont utiles. Et de la même façon, il n'y a pas toujours communication entre les différents membres du corps de Christ. Vous savez, le corps de Christ, il est composé de 2 milliards de membres dans le monde entier aujourd'hui. Alors, ce serait difficile de communiquer avec 2 milliards de personnes. Déjà, on a du mal à communiquer avec les gens de notre assemblée. Imaginez-vous, si on voulait vraiment communiquer avec tous les membres du corps, ce serait impossible. Alors, dans Jean, chapitre 17, versets 20 et 21, on lit cette prière de Jésus. Jean, chapitre 17, versets 20 et 21. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Intéressant cette notion. Que nous soyons un en Jésus. C'est pas un les uns avec les autres, c'est un en Jésus. Vous comprenez? Afin qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est intéressant cette notion. Je ne sais pas si vous avez jamais vraiment fait attention à ce verset, mais pour moi, ça veut dire que notre unité doit être d'abord en Dieu, dans le Seigneur. Et à ce moment-là, le monde croira que Jésus a été envoyé par le Père. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Ce qui veut dire que c'est notre priorité, c'est d'être comme Jésus qui était pleinement un avec son Père, dans l'unité avec son Père, et le Père était pleinement en Jésus. Les deux ne forment qu'un. Et c'est ça, donc, l'unité première à laquelle nous devrions, pour laquelle nous devrions faire un effort. Alors, je vais découper ce message en 3 parties. Ça, ce n'était que l'introduction. Alors, vous savez qu'à l'école biblique, on nous enseigne de faire des messages en 3 points. Donc, après toutes ces années, les professeurs qui m'ont enseigné seraient contents de savoir que finalement, je mets en pratique ce qu'on m'a enseigné. Trois points. Numéro un, notre union avec le Seigneur. Numéro deux, notre union avec les membres du corps de Christ. Et numéro trois, notre union avec le peuple juif. Tiens, c'est bizarre ça. On n'a jamais entendu ça avant, mais vous allez voir. Mais tout d'abord, notre union avec le Seigneur. Comme je l'ai dit, l'unité que nous devons absolument rechercher, c'est d'être unis au Seigneur, qui veut que l'Église soit pour lui une épouse fidèle et pure. Si cela n'est pas notre priorité, c'est qu'il y a un problème dans notre vie. C'est qu'on n'est pas vraiment unis au Seigneur et que cette union avec lui n'est pas notre priorité. C'est déjà d'ailleurs ce que reprochait Dieu au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 62, verset 5. On voit ceci. « Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » Et puis cette notion est clairement reprise dans le Nouveau Testament, dans ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 2. « En effet, dit l'apôtre Paul, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc on voit les paroles qui sont reprises là aussi dans le Nouveau Testament. Et encore dans ce passage de Éphésiens chapitre 5, verset 25, il est écrit « Il s'est donné lui-même, Jésus s'est donné lui-même, pour elle, pour l'Église, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Alors là, on a encore du chemin à faire, hein, mes amis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, au secours, hein, parce qu'on est encore loin de là. Et donc, on voit qu'il y a encore de l'amélioration à faire dans nos vies. Et si nous sommes véritablement unis au Seigneur, nous allons, comme une femme, mettre au monde des enfants. C'est logique. C'est la conclusion, c'est la conséquence normale, naturelle, quand un homme et une femme se marient. C'est après, ben, il y a des enfants qui arrivent. Et en fait, cela symbolise aussi les fruits que nous devons porter dans notre vie et qui glorifieront le Seigneur. Et bien entendu aussi les enfants spirituels que nous allons mettre au monde. C'est-à-dire, nous allons amener des gens au Seigneur. Dans Jean chapitre 15 et au verset 4, Jésus parle en parabole. Il parle ici du cep d'une vigne et des sarments, donc les branches. Et il dit ceci, Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » C'est intéressant cette notion. Je ne sais pas si vous avez réalisé. Jésus dit, « D'abord, faites l'effort, vous, moi, de demeurer en Jésus. Et alors, il dit, je demeurerai en vous. » Si on ne remplit pas cette première condition, on ne peut pas s'attendre à ce que Jésus demeure en moi si moi-même je ne veux pas demeurer en lui. Je dis toujours, vous savez, Dieu ne force personne et il respecte notre liberté, même si cela veut dire que nous nous éloignons de lui, malheureusement. Il respecte même cela. Il ne va jamais nous obliger, nous forcer à rester dans sa présence. Si nous voulons nous éloigner de lui, nous sommes libres de le faire. On en paiera les conséquences, bien entendu. Donc, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Ah ! On peut penser qu'avec nos activités, un ministère, ou qu'est-ce que je sais, que on peut glorifier Dieu. Mais si ce ministère, cette activité n'est pas issue et branchée connectés au cep, au tronc qui nous porte, c'est du travail en vain. C'est inutile. C'est ce qu'il dit ici. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en même de vous si vous ne demeurez pas en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. N'oublions pas. Nous sommes dépendants du Seigneur constamment. Comme une branche, un sarment dépend de ce tronc à travers lequel il reçoit la vie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En tout cas, rien de bon. Ça, c'est sûr. C'est ce que je me dis toujours. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. En tant qu'être humain, on a des activités, même au sein de l'Église, on peut penser, on va organiser ceci, on va faire cela, on va encore faire des choses, en se disant, sûrement que Dieu sera content. Il vaut mieux lui demander avant que de lui dire, Seigneur, voilà, on a déjà tout planifié, maintenant, tu n'as plus qu'à bénir. Oui, mais, et si c'était pas vraiment son idée à lui? Si c'était pas vraiment sa volonté? Ou même tout simplement son timing à lui? Parce qu'on peut avoir de bonnes intentions et se dire, Seigneur, on va faire ceci pour toi et on espère que ça va te glorifier. Oui, mais le Seigneur, il se disait, ça doit seulement arriver dans 2 mois. Et eux, ils veulent déjà le faire maintenant. C'est pas le bon temps, c'est pas le bon timing, les enfants. Attendez, soyez patients. Si seulement vous pouviez attendre le temps du Seigneur. Vous savez, dans le grec, il y a 2 mots pour dire le mot temps. T-E-M-P-S. C'est le premier, chronos, le chronomètre. On mesure le temps avec des secondes, des minutes, des heures, etc. Et puis, il y a le mot kairos. Et kairos, c'est un mot très intéressant parce qu'il veut dire que quand les circonstances sont mises en place, alors la chose arriva. Comme par exemple, il est écrit « Quand les temps furent accomplis », je ne sais pas si vous voyez dans les évangiles, alors Dieu envoya son Fils à ce moment-là. Quand les temps, les choses se sont mises en place, Dieu ne regarde pas sa montre en disant « Bon, il est déjà presque minuit, il faut que je me dépêche ». Non, il regarde les événements du monde, ce qui se passe dans votre vie, dans ma vie. Il dit « Quand ces choses-là seront en place, à ce moment-là, j'envoie ce qu'il faut envoyer. » Est-ce qu'on est prêt à nous mettre au diapason de Dieu, justement, d'essayer de marcher selon ses pensées, selon ses voies, et pas seulement selon notre horloge, notre chronomètre? Alors, Jésus dit donc, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. » Et puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ouh là là, pas très gentil, hein, comme illustration. Si on ne porte pas de fruits, on risque de mal finir, mes amis. Donc notre priorité, en fait, quand on relit bien ce passage, c'est quoi? C'est qu'on doit porter du fruit? Non. C'est qu'on doit rester attaché au cep, au tronc. Parce que si on ne le fait pas, on ne pourra jamais porter de fruits. Vous comprenez? Souvent, on met la charrue devant les bœufs, on dit, il faut porter des fruits, les amis, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela. Hein, et parfois, on culpabilise même les gens. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Pourquoi vous n'avez pas fait ceci? On avait besoin de vous. Si nous ne sommes pas attachés fermement au Seigneur, au tronc, et que nous faisons des activités simplement pour plaire aux gens, on n'est pas là pour plaire à Dieu, on est là pour plaire aux hommes. Attention à nos motivations, même quand on fait des choses soi-disant pour la gloire de Dieu, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur me demande de faire? Et si c'est le cas, alors il faut que je le fasse et de tout mon cœur. Mais s'il ne me le demande pas, il vaut mieux que j'attende et que j'écoute. Je lui dis, Seigneur, montre-moi, parle-moi, ou parle à travers quelqu'un, montre-moi un signe, si vous avez besoin de signes. Ma femme, elle a besoin de signes. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dieu a donné des signes à Gédéon, pas des oiseaux qui s'envolent, hein, les signes, mais vous comprenez. Donc, elle a besoin de signes. J'ai dit, Dieu a envoyé des signes à Gédéon, elle peut t'en envoyer aussi. Et c'est le cas. Même avant de partir justement en Israël, elle dit, j'ai besoin de 3 signes. J'ai dit, ok, on va attendre que tu les aies. Et elle les a reçus, tous les 3, sans problème. Parce que Dieu est bon, il sait ce dont on a besoin. Et il sait qu'on veut vraiment lui plaire, marcher dans sa volonté. Et si c'est le cas, faut pas hésiter et dire, Seigneur, envoie-moi un signe, que je puisse être certain que ce que je vais faire, au moins, soit selon ta volonté. Donc, nous devons absolument rester attachés au Seigneur. Ça, c'est la priorité absolue, les amis. Avant d'essayer de porter du fruit ou de faire des activités, restons attachés au Seigneur. Comme une épouse doit rester attachée à son époux, hein, hier vous avez eu cette convention sur le thème de la famille, du mariage, c'est absolument nécessaire qu'un couple reste uni, que le mari reste fidèle à sa femme et que la femme reste fidèle à son mari. Et c'est la même chose dans notre relation avec le Seigneur. On sait que lui restera toujours fidèle. Merci Seigneur, parce qu'il est écrit dans sa parole, même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut pas se renier. Et malheureusement, c'est nous souvent qui sommes infidèles. Il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus fidèle au Seigneur. Alors, on avance. Notre union avec les membres du corps de Christ. Alors, rapidement, parce que je ne veux pas trop prolonger le sujet, mais Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 18, quelque chose à propos des relations que nous devrions avoir les uns avec les autres dans le corps du Christ. Et il dit ceci, « Si cela est possible... » Ah, intéressant, donc c'est une première condition. « Si cela est possible, 2, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Bon, avec tous les hommes, c'est déjà impossible, puisqu'il y a, comme je l'ai dit, il y a des milliards d'hommes et de femmes dans le monde aujourd'hui, donc je ne sais même pas si ce serait possible physiquement d'être en paix avec tout le monde, mais il dit il y a 2 conditions, si cela est possible. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être en paix avec vous. Ils refusent tout simplement de vous parler ou de vous voir parce qu'ils estiment que vous avez une opinion complètement différente de la leur, donc ce n'est pas possible. 2e condition, si cela dépend de vous. Donc, pour autant que moi, j'ai envie de dialoguer avec quelqu'un, j'ai envie de renouer peut-être ce dialogue, cela dépend de moi. Et à ce moment-là, je dois faire un effort. Mais si cela dépend de l'autre personne, qui, elle, n'a pas forcément envie de dialoguer avec moi et de renouer ce dialogue, ben tant pis, je vais pas en faire des cauchemars. Hein. Je vais pas en passer des nuits blanches parce que je sais qu'il y a quelqu'un là-bas qui m'en veut et qui veut pas renouer le contact avec moi. Tant pis, soyez en paix, mes amis. Ne laissez pas Satan vous culpabiliser. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne devons pas vivre dans cette phobie, je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas et qui sont en désaccord avec moi. Jésus aussi, il avait beaucoup de gens qui étaient en désaccord avec lui et qui ne l'aimaient pas. Et pourtant, il dormait bien, j'en suis persuadé. Donc, soyons semblables à lui, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui sont même en désaccord avec nous, eh bien tant pis. On voit, en fait, déjà dans l'Ancien Testament, qu'Abraham et Lot, son neveu, ont dû se quitter, ils ont dû se séparer. Genèse chapitre 13, verset 9. On lit ce passage. « Tout le pays n'est-il pas devant toi ?» dit Abraham à Lot. « Sépare-toi de moi !» Wow, quelle invitation, hein ! L'oncle qui dit à son neveu, « Sépare-toi de moi !» Sympa, hein ?« Si tu vas à gauche, j'irai à droite. » Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. En d'autres mots, on veut pas se chamailler, on veut pas se disputer, on veut pas avoir une bagarre, mais malheureusement, de toute évidence, on ne peut plus continuer ensemble. Donc, séparons-nous. Et c'est ce qu'ils ont dû faire. Dans la paix, je crois. Et puis, on voit aussi dans le Nouveau Testament une situation où ils ont dû aussi se séparer. Dans Actes, chapitre 15, versets 36 à 39, quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et nos sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Mais Barnabas voulait aussi emmener Jean, surnommé Marc, donc Jean-Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Écoutez bien, verset 39. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Donc on voit ici que malheureusement, si bien Abraham, patriarche dans la foi, que l'apôtre Paul ont dû à un moment donné se séparer de quelqu'un avec qui ils ne pouvaient plus marcher, ils ne pouvaient plus continuer, parce qu'il y avait un désaccord assez vif. Donc on le voit que dans la vie de ces grands hommes de Dieu, malheureusement, il y a eu des situations où ils ont dû aussi se séparer de personnes. Et c'est certainement aussi le genre de situation qui risque de nous arriver. Il ne faut pas nous faire d'illusions. Et ce n'est pas la fin du monde pour autant, hein, mes amis. Et parfois, on veut absolument garder l'unité, etc. Et je pense qu'on met l'unité au-dessus de toute chose. Alors que ce qu'on devrait mettre au-dessus de toute chose, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut qu'on continue ou est-ce qu'il veut plutôt qu'on se sépare? Toi, tu vas à droite, moi je vais à gauche, tu continues et moi je continue dans ce que nous sommes appelés à faire chacun de notre côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cantique qui parle de l'école, enfin c'est un cantique de l'école du dimanche. Brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. C'est ça aussi l'idée. On n'est pas toujours ensemble. On est parfois séparés, même pendant la semaine. Mais il faut qu'on continue à briller dans ce monde où chacun a sa place. Donc, on voit aussi, et c'est intéressant, dans Matthieu chapitre 10, ce passage où Jésus nous parle de la façon dont il a été traité, ou plutôt maltraité, hein, ce serait le terme plus exact, Matthieu chapitre 10, verset 24. Écoutez bien ce que Jésus nous dit ici. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son seigneur. C'est logique, ça, on en est bien conscient. En tout cas, moi je le suis. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, qui veut dire le maître des mouches en hébreu, c'est un peu comique comme expression, mais en réalité, c'est un terme qui désigne Satan. Ils ont appelé le maître dans la maison, donc Jésus, ils l'ont appelé Satan. Imaginez-vous, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Donc, préparez-vous aux compliments, mes amis. C'est ça que ça veut dire. Si Jésus a été nommé Satan, je crois que nous, on ne va pas recevoir des compliments beaucoup plus glorieux que ça. L'unité entre les chrétiens n'est pas quelque chose qu'on doit forcer ou essayer de créer en organisant des colloques ou des séminaires ou des conférences sur le sujet, comme ça se fait parfois. Car l'unité entre chrétiens ne peut être que le résultat de quoi ? De le fruit d'un amour sincère entre les chrétiens. Et à ce moment-là, il y aura une véritable unité. Quand je peux être sincère avec ma femme, alors je suis uni avec elle. Vous êtes d'accord ? Si par contre je lui cache des choses parce que j'ai peur que ça lui fasse mal ou que parce que j'ai simplement mal agi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Ces choses mettent une division entre nous. Et c'est la même chose dans le corps de Christ. Si on peut être sincère à ce moment-là, on va être unis véritablement. On pourra se dire la vérité dans l'amour. Et c'est ce que dit aussi l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Vous savez, c'est intéressant dans le grec, le mot hypocrisie, en fait, c'est le mot qui désigne un acteur. Le théâtre, ça existe depuis très longtemps, hein, vous savez. Il y a plus de 2000 ans qu'on fait des pièces de théâtre et qu'on joue les pièces de théâtre, même déjà dans les amphithéâtres grecs et romains. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un masque sur leur visage pour représenter soit le bonheur, un beau sourire, ou alors la tristesse, le sourire à l'envers. Hein. Et l'apôtre Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie, c'est-à-dire sans comédie, sans grimace. Soyons transparents, soyons normaux. N'exagérons pas. Si on n'a pas vraiment envie de faire un grand sourire à quelqu'un, mais ne le faisons pas, mes amis. Ne soyons pas hypocrites. Vaut mieux être sincère. Vaut mieux avoir une grimace plutôt qu'un sourire qui est faux. Moi, personnellement, je préfère que les gens soient sincères avec moi et qu'ils viennent me dire « j'ai pas aimé ton message ». Au moins, je sais que cette personne était sincère. Plutôt qu'une autre qui va venir avec un grand sourire. « Oh, c'était merveilleux !» Alors qu'en réalité, elle se dit « oh, qu'est-ce que c'était ennuyeux, alors hein ?» Vous voyez ce que je veux dire. Que l'amour soit sans hypocrisie. Alors, toujours sur ce thème, dans Éphésiens chapitre 4, verset 13 à 15, on va prendre la partie du verset 12. Il est dit ceci. Il l'a fait. Donc, il a donné des dons. C'est le passage où il parle des cinq ministères. Il l'a fait, donc, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Être édifié, construit. C'est ça qu'on doit faire. On doit apprendre à se construire, à s'édifier les uns les autres. Hein, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Ouh, intéressant ce concept. L'unité de la foi. Et c'est pas tellement l'unité entre nous, mais c'est être unis dans notre foi. Foi en Jésus, évidemment, et aussi dans notre compréhension de la parole de Dieu. Vous savez, moi je crois que la doctrine, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on sache quelle est notre doctrine, qu'est-ce que nous croyons finalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'idées saugrenues qui passent dans différentes églises. L'apôtre Paul parle de vents, de doctrine. Moi, je dis parfois, c'est pas des vents, c'est des tempêtes, des ouragans qui passent aujourd'hui dans nos églises. Quand on entend le genre de truc complètement insensé qui est enseigné dans les églises, mais c'est pour en avoir peur. En tout cas, je continue. Il dit donc, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Connaître le Fils de Dieu. Est-ce que c'est ma priorité? Est-ce que je te connais, Jésus? Est-ce que je pourrais encore mieux te connaître? Je me souviens toujours de cette chanson de l'Armée du Salut. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Agir, penser, aimer, toujours plus comme toi. Ah, quel programme, mes amis, te ressembler, Jésus. On est loin d'y être, en tout cas, moi, je le sais. Et puis, ça devrait être vraiment notre espoir suprême, en effet. Donc, l'apôtre Paul, je continue, verset 13, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. » Il y a une différence entre la maturité de l'adulte et les enfantillages d'un enfant, justement, n'est-ce pas? Est-ce que je suis encore comme un enfant ou est-ce que je suis parvenu à la maturité de l'adulte? À la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, voilà ce que je disais, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais quel est le signe tangible de notre maturité en Christ? Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. Ça, c'est intéressant. En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. Waouh! C'est vraiment pratique, ça, c'est vraiment du terre à terre. Hein. Quand je dis la vérité dans l'amour, parce qu'évidemment, je suis pas là pour dire la vérité et démolir la personne, mais si je la dis, la vérité dans l'amour, en espérant que ce que je lui dis va l'aider à se remettre sur le bon chemin, alors à ce moment-là, nous pouvons grandir les uns et les autres. Ça, c'est extraordinaire. Plutôt que d'éviter certains sujets qui pourraient déranger ou offenser, non, dites la vérité dans l'amour. C'est tellement important. Et plus loin, dans le même chapitre, verset 25, il dit, « C'est pourquoi vous, débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » On peut se demander pourquoi parfois y a-t-il un tel manque de maturité dans nos églises. Ici, c'est peut-être une réponse, parce qu'on ne se dit pas la vérité dans l'amour. On évite de dire la vérité, parce qu'on a peur d'offenser ou de blesser. Mais si vous pouvez dire la vérité avec de l'amour, croyez-moi, ça passera. Je l'ai déjà expérimenté. C'est pas toujours facile. Il faut être un peu diplomate aussi, hein. Il faut savoir utiliser les bons mots pour ne pas démolir la personne. Mais il faut quand même se dire la vérité. Alors, j'avance un peu plus loin. Et c'est mon troisième point, je veux clôturer avec cela. Tout d'abord, comme je l'ai dit, notre unité avec le Seigneur doit être notre priorité suprême. Et si nous sommes vraiment unis avec lui, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous pourrons nous dire à ce moment-là la vérité dans l'amour, parce que son amour passera à travers nous également. Et sa vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc lui, il est toujours dans la vérité. Et nous devons apprendre à vivre dans sa vérité également. Et bien entendu, on va être unis les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'on est tous connectés, branchés au même tronc, au même cep qui nous porte. Et à ce moment-là, donc, cette même nature, cette même sève qui vient nourrir les branches, sera en nous et donc forcément, on va se ressembler aussi quelque part. Parce que sur un pommier, on trouve des pommes et pas des pommes et des ananas. Hein? Donc, on va commencer à se ressembler petit à petit. Troisième aspect, et je le donne rapidement, notre union avec le peuple juif. Étonnant cette idée, parce que je crois pas qu'on entend souvent ce genre de discours dans nos assemblées, dans nos églises, mais on voit que l'apôtre Paul, en parlant du sarment, pardon, ça c'est Jésus qui dit le sarment doit rester fermement attaché au cep, mais l'apôtre Paul, il dit aussi dans Romains chapitre 11, souvenez-vous, j'ai déjà enseigné là-dessus ici, que nous, les non-juifs, nous sommes comme la branche d'un olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. Romains chapitre 11, hein, vous vous souvenez de cela. Et nous sommes devenus participants à la sève et à la racine de l'olivier. L'olivier franc qui représente la maison d'Israël à travers laquelle Dieu a envoyé toutes ses révélations au monde. Il s'est révélé au monde à travers ce peuple, inclus Jésus, bien entendu, puisque Jésus était juif. Et en réalité, je ne sais pas si vous l'avez jamais remarqué, mais une des raisons pour laquelle Jésus est venu dans ce monde, c'est pour créer cette unité entre les juifs et les non-juifs. Intéressant, hein? Je ne sais pas si vous aviez pensé à cela auparavant. On dit toujours Jésus est venu dans le monde pour nous sauver, hein, pour nous amener au Père. Et absolument. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 11. « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, c'est-à-dire sans Christ, sans libérateur. Vous étiez sans Messie, exclu du droit de cité en Israël, étranger aux promesses, aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Eh oui, parce qu'il fut toute une époque pendant laquelle Dieu ne faisait des alliances qu'avec le peuple d'Israël, n'oubliez pas. Si vous lisez bien votre Bible, vous l'aurez compris. Et la seule possibilité pour recevoir les bénédictions de Dieu à l'époque, c'était de devenir juif, de se convertir et de pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu, car Dieu est le Dieu d'Israël avant tout. Et puis, cette notion a été ouverte aux autres nations à travers la venue de Jésus. On est bien d'accord là-dessus. Donc, il dit, « Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde », verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » En effet, verset 14, « Il est notre paix. » Quand on dit « il faut prier pour la paix en Israël », devinez pour quelle paix on doit prier. « Il est notre paix. » La paix de Jésus, la seule qui pourra réussir. C'est pour cette paix-là qu'il faut prier. Lui qui est des deux groupes, les juifs et les non-juifs, n'en a fait qu'un, une unité. Et il a renversé le mur qui les séparait, la haine. Et par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau. On n'a pas remplacé Israël. Il y a des gens qui disent « l'Église remplace Israël ». C'est faux. On ne voit nulle part cette idée dans la Bible. Nous avons été intégrés, adoptés, greffés sur l'olivier franc, mais on n'a pas remplacé. Dieu n'a pas pris sa tronçonneuse, il a coupé l'olivier franc en disant « hein, toi je te jette à la poubelle, je te mets au feu parce que tu n'as pas été fidèle ». Non, il nous a, nous, non-juifs, greffés sur cet arbre. Il nous a adoptés dans cette famille. Il faut que ce soit bien clair dans notre esprit. La théologie du remplacement est fausse et ne tient pas debout. Nous ne remplaçons pas Israël. Nous avons été adoptés, greffés, ajoutés à cette famille. Donc, il dit ceci, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire nous les non-juifs, et à ceux qui étaient prêts, c'est-à-dire les juifs. » À travers lui, en effet, verset 18, « Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. » Eh bien, que le Seigneur nous aide à vraiment réaliser cette unité, tout d'abord avec lui, ensuite avec nos prochains dans le corps, pour autant que ce soit possible, comme dit l'apôtre Paul, et ensuite avec ce peuple juif. Je termine par la prière. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, pour ta parole qui nous éclaire, qui nous aide à mieux comprendre tes pensées et tes voies. Aide-nous, Seigneur, à vraiment rester attachés à toi, parce que c'est toi qui as été attaché à la croix pour nous. Et nous te bénissons, car à travers ton sacrifice, nous pouvons aussi recevoir la vie éternelle, mais aussi cette unité avec ce peuple juif, avec Israël, que tu avais choisi, élu en premier lieu. Et nous te bénissons, car tu veux que nous puissions être unis à toi tout d'abord, et qu'ensuite nous puissions être aussi unis avec ceux qui sont autour de nous. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour cette réconciliation à laquelle tu nous appelles également. Nous te demandons de nous bénir et de bénir cette semaine qui s'ouvre devant nous, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.